11h30 en temps universel, il est 13h30 ici à Paris. RFI Midi se poursuit.
RFI Midi, Anne Cantner.
Nous sommes en Europe jusqu'à midi, temps universel. Midi, ce sera l'heure du journal de Jean-Baptiste Marot qui est à côté de moi. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Et on ira d'abord à Bruxelles.
Bruxelles, où doit s'ouvrir dans quelques minutes un nouveau sommet européen en présence des chefs d'État et de gouvernement des 27. À l'ordre du jour, la répartition de ce qu'on appelle les top jobs de l'UE après les élections d'il y a 3 semaines. Pas de gros suspense, a priori, les choses sont déjà actées, à moins que l'Italie de Giorgia Meloni ne rue dans les brancards. C'est Pierre Benazet qui nous expliquera tout cela dans une demi-heure. À 3 jours du premier tour des législatives anticipées en France, Anne, on ira aussi voir comment vont voter les sinistrés du Pas-de-Calais qui ont affronté des inondations à répétition cette année. Ont-ils la fibre écolo ou bien le ras-le-bol les incite-t-ils à voter RN? On verra ça dans le reportage d'Igor Strauss qui s'est rendu sur place. La dernière ligne droite des législatives ponctuée aussi par le premier anniversaire de la mort de Naël. Aujourd'hui, vous vous en souvenez, c'était le point de départ de plusieurs nuits d'émeutes dans l'Hexagone il y a un an. Alors, où en est l'enquête sur la mort de l'adolescent aujourd'hui? Question qu'on posera aussi à Laura Martel tout à l'heure. Et puis toujours à propos d'élections, on ira aux États-Unis voir ce que les Américains attendent du premier temps fort de la campagne pour la présidentielle de novembre. Ce soir, en l'occurrence, le premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden. Reportage à suivre dans la banlieue d'Atlanta, dans le journal de 14h.
Merci Jean-Baptiste, on vous retrouve dans un peu moins d'une demi-heure maintenant. D'ici là, nous parlons de l'actualité en Europe. Nous allons évoquer aussi les législatives en France. Nous verrons que l'Allemagne et la Pologne suivent de près cette campagne et l'issue possible du vote le 30 juin et le 7 juillet prochain. Et puis on va parler évidemment de ce Conseil européen qui se tient à Bruxelles.
RFI, l'Europe à midi.
Les 27 se retrouvent donc aujourd'hui, premier Conseil européen depuis les élections qui ont renouvelé le Parlement il y a un peu plus de 2 semaines. Et nous sommes en direct avec Julien Chavanne, notre reporter à Bruxelles. Bonjour Julien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Un sommet pour valider les postes clés de l'UE, pour définir aussi les priorités de l'Union pour les 5 prochaines années. La réunion va débuter avec un invité spécial aujourd'hui.
Oui, invité spécial, hein. C'est comme ça que les diplomates ici présentent Volodymyr Zelensky, le président ukrainien invité au début de ce sommet. Rendez-vous dans 30 minutes pour une photo de famille, avant une petite heure de discussion avec les 27. Le président ukrainien vient signer un accord de sécurité et demander encore une fois des armes, mais sa présence est symboliquement forte. L'Ukraine vient tout juste de commencer son processus d'adhésion à l'Union. Enfin, s'est réjoui tout à l'heure Volodymyr Zelensky à son arrivée.
We waited for this.
On attendait ça depuis un long moment. Tout le monde, les civils, nos héros sur le front, vous savez combien on veut être dans l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est une étape historique forte. Et merci beaucoup pour ce soutien et pour avoir ouvert ce processus d'adhésion. C'est très important pour nous tous et pour l'Ukraine, croyez-moi.
La participation du président ukrainien à ce sommet permet aussi aux alliés de Kiev d'envoyer une image d'unité et de soutien, car dans quelques jours, le dirigeant hongrois Viktor Orban, proche de Moscou, prendra la présidence du Conseil européen.
Et les dirigeants de l'Union, Julien, vont ensuite s'enfermer dans la salle du Conseil pour s'accorder sur ce que l'on appelle les top jobs, les postes clés de l'Union.
Ouais. Les forces politiques qui dominent l'hémicycle se sont déjà mis d'accord pour renouveler Ursula von der Leyen à la Commission, le Portugais Antonio Costa au Conseil européen, l'Estonienne Kaya Kallas à la tête de la diplomatie. Ce casting a été choisi par 6 dirigeants, dont le Français Emmanuel Macron et l'Allemand Olaf Scholz, mais sans Giorgia Meloni, qui le vit très mal. La chef du gouvernement italien n'a pas aimé que tout se décide sans elle, alors que son groupe est désormais la 3e force au Parlement européen. On suivra donc dans les prochaines heures comment les 27 arrivent à s'accorder sur ces top jobs. Certains osent même espérer déjà que le sommet se finisse avant demain.
Julien Chavanne en direct de Bruxelles. On suivra donc ce conseil avec vous aujourd'hui et avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. On retrouvera dans le journal dans un peu plus de 25 minutes. Il sera aussi probablement question aujourd'hui de la situation politique en France, de la possible arrivée au pouvoir de l'extrême droite à l'issue des législatives anticipées. Nous l'avons dit déjà ici, un certain nombre d'Européens s'en inquiètent et ils le font savoir. voir. Je vous propose une illustration en Allemagne. Là aussi, les européennes du début du mois ont éprouvé le parti au pouvoir, mais pas question de dissoudre l'Assemblée. L'hypothèse a été envisagée très rapidement, puis vite évacuée, Delphine Nerbollier. Et beaucoup aujourd'hui se demandent dans le pays comment lutter contre l'extrême droite durablement et de manière plus efficace qu'en France.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen am Ende eines bemerkenswerten Europawahlsonntags.
Difficile d'expliquer actuellement aux Allemands ce qui se passe en France. L'annonce de la dissolution a eu l'effet d'un choc outre-Rhin. Même le chancelier Olaf Scholz est sorti de sa réserve habituelle ce week-end.
Je me fais du souci pour les élections en France, je le dis clairement. Et j'espère que les partis qui ne sont pas celui de Le Pen, pour le dire comme cela, gagneront ces élections. Mais sur ce point, ce sont les Français et les Françaises qui décident.
La surprise a été d'autant plus forte qu'en Allemagne comme en France, les partis au pouvoir sont sortis très affaiblis des élections européennes. Mais de là à dissoudre le Bundestag, c'est une autre affaire. L'idée a certes été lancée par l'opposition, mais sans être retenue. Cette pratique n'est pas dans les habitudes du système parlementaire allemand. Comme le rappelle Stefan Cornelius, il est éditorialiste au quotidien Süddeutsche Zeitung. Nous le joignons par téléphone à Munich.
C'est fascinant de voir à quel point l'Allemagne et la France sont différentes. En Allemagne, notre système est conçu sur la peur de nous-mêmes, de sorte que nous ne prendrions jamais de tels risques. C'est pour cela que notre constitution exclut la possibilité d'élections anticipées ou de dissoudre le Parlement. C'est très clairement une conséquence de notre passé, de notre expérience. Nous sommes en cela très allemands et nous ne comprenons pas l'esprit des Français. Et par ailleurs, nous n'avons pas vraiment confiance dans la stabilité de la société française.
Ce journaliste réputé et influent en Allemagne n'a d'ailleurs pas de mots assez durs envers le président français.
Je ressens de la peur et de l'inquiétude. C'est la crainte d'entrer dans une nouvelle ère où tout se passe de manière incontrôlée et irréfléchie, sur la base d'un coup de sang, d'une émotion. L'Europe et l'Allemagne n'ont pas besoin de cela actuellement. À mon avis, les politiques sont plutôt appelées à projeter du calme. Et si je peux comprendre les motivations du président, je ne trouve pas sa décision intelligente.
La crise politique en France fait réfléchir outre-Rhin, car en Allemagne aussi, l'extrême droite est en forte progression avec le parti AfD. On dit même que le pays se normalise en la matière, car l'extrême droite n'est revenue dans le paysage politique que depuis 10 ans. Elle reste toutefois encore au niveau national, bien en dessous des résultats du RN français. Deux partis bien différents selon Marc Ringel, il est directeur du centre franco-allemand de Ludwigsburg.
Le Rassemblement national a mené cette stratégie pendant des décennies en fait de diabolisation, de normalisation en fait, tandis que notre AfD est vraiment, enfin, elle a pris la stratégie inverse, elle s'extrémise beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment pour l'AfD des extrêmes que si on regarde de près depuis des décennies maintenant, c'est d'abord le Front National puis le Rassemblement National qui a mené cette stratégie d'en bas vers le haut. C'est-à-dire d'abord gagner des villes, des petits territoires et puis rassembler ça à un niveau national. C'est une stratégie qui pourrait être suivie aussi par des partis moins extrêmes, mais déjà extrême droite, extrême gauche en Allemagne.
Vu d'Allemagne, on ne s'inquiète pas vraiment du nouveau front populaire à gauche. Le danger, vu d'ici, concerne le Rassemblement national. Marc Ringel.
Niveau mental, on n'est pas sûr quelle politique la RN remènera vers l'Allemagne et vers la politique allemande. Voilà, la stratégie de RN serait de se retirer un peu de l'Europe, penser l'Europe autrement. Je pense qu'on n'a pas vraiment peur de Frexit. On a très, très bien compris que Marine Le Pen a changé un peu l'opinion là-dessus. Donc ça, on a compris. Mais je crois qu'il y a aussi la confiance, en fait, dans M. Macron en tant que président, d'être garant d'une stabilité et une durabilité aussi avec les relations avec l'Allemagne.
En cas d'arrivée au pouvoir du RN en France, l'Allemagne pourrait-elle se montrer plus active et prendre le leadership européen ? Peu y croient ici, car à Berlin aussi, le gouvernement est fragilisé. Une situation de statu quo, voire de possible blocage, qui ne présage rien de bon pour la dynamique européenne.
Reportage de Delphine Nerbollier en Pologne à écouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe. Et dans cette Allemagne, inquiète de voir l'extrême droite arriver au pouvoir, confrontée elle aussi à une montée du parti AfD. Une réforme centrale du gouvernement entre en vigueur aujourd'hui. Elle impose de nouvelles règles pour la naturalisation, raccourcit les délais pour obtenir la nationalité allemande. Cela fait écho à une polémique entendue cette semaine en France. Et l'idée suscite un certain nombre de critiques en Allemagne. Pascal Thibault, les chrétiens démocrates ont déjà prévenu qu'il remettrait le texte en cause s'il revenait aux affaires.
Oui, effectivement, cette réforme suscite des débats. D'un côté, à gauche, eh bien, on la salue. C'est une réforme centrale du gouvernement Scholz, notamment pour les Verts. C'est une révolution copernicienne qui modernise le pays en le rendant plus accueillant pour les migrants. À droite et à l'extrême droite, eh bien, on estime qu'on brade la nationalité allemande, qu'on va créer un appel d'air pour de nouveaux arrivants, alors que l'heure devrait être, pour ces forces, d'abord à un contrôle strict de la migration. Cette réforme centrale est donc en vigueur aujourd'hui. Elle facilite l'obtention de la nationalité allemande en raccourcissant les délais. Il faudra désormais 5 ans au lieu de 8 jusqu'à présent pour l'obtenir. Et pour des personnes bien intégrées, actives socialement, ce délai pourra même être réduit à 3 années. Autre changement, la double nationalité devient la règle, alors que jusqu'à présent l'Allemagne avait une politique plutôt restrictive. Elle n'était possible, cette double nationalité, que pour les ressortissants de l'Union européenne et de la Suisse. Les autorités s'attendent à un afflux de demandes, malgré des délais d'attente souvent longs. Aujourd'hui, 200 000 dossiers, par exemple, sont en attente rien que dans les grandes villes. En 2023, 200 000 personnes ont été naturalisées. C'était un record, le plus élevé depuis l'an 2000.
Pascal Thibault, correspondant de RFI, en direct de Berlin, sur cette question donc de la double nationalité qui a beaucoup fait débat cette semaine en France, dans la campagne électorale. Je vous parlais de l'Allemagne. En Pologne aussi, on garde un œil sur la situation politique française. Un œil d'autant plus avisé que le pays a connu des années de pouvoir ultra-conservateur, de droite dure pour dire le moins, et aux dérives autoritaires. Selon le journaliste Michel Marsal, ces années, les 8 ans durant lesquels la Pologne a été gouvernée par le PiS, devraient servir de contre-exemple en Europe.
Globalement, le PiS s'est saisi des institutions car chaque gouvernement fait pareil. Il arrive au pouvoir et place ses partisans en place de pouvoir. Mais le PiS est allé si loin dans cette stratégie qu'il a modifié plusieurs institutions. Il ne pouvait pas modifier la Constitution car il n'avait pas de majorité absolue pour le faire, mais il a bétonné le pays avec différentes lois, établissant un nouvel ordre dont le nouveau gouvernement n'est pas en mesure de se débarrasser aujourd'hui. En arrivant au pouvoir, ils avaient déjà les mains liées. Les Français feraient bien d'apprendre des erreurs des Polonais et de ne pas commettre l'erreur de donner le pouvoir à l'extrême droite, car ici, elle a failli faire sortir la Pologne de l'Union européenne. Tout ça parce qu'ils n'aimaient pas qu'on leur dise de respecter les droits de l'homme et la démocratie, l'indépendance de la justice. Par chance, chez nous, c'est en train de changer, mais les Français sont en train de s'engager vers une grosse erreur.
Et le journaliste souligne par ailleurs que Marine Le Pen et son parti sont bien connus en Pologne et que leur position sur la guerre en Ukraine ne rassure pas du tout.
On a peur qu'elle arrive au pouvoir, car ça aura une influence sur la position de la France vis-à-vis de l'Ukraine. Et ça risque de ruiner les efforts que Macron a engagés contre Poutine. Ça peut vite devenir un problème pour nous les Polonais, car la Russie peut venir toquer chez nous à n'importe quel moment. Donc on regarde tout ce qu'il se passe avec beaucoup d'inquiétude.
Analyse au micro de notre correspondant en Pologne, Adrien Sarla. Vous pourrez écouter cet entretien ce soir dans l'émission Accent d'Europe.
RFI Midi, Anne Contner.
À la une de la presse sur le continent européen, il y a ce scandale en Italie provoqué par des insultes antisémites contre une députée tenue par des membres du parti de la première ministre, Fratelli d'Italia. Ce scandale s'affiche à la une de tous les journaux italiens, notamment la Repubblica ou la Stampa. Le parti de Giorgia Meloni réagit en assurant que les propos tenus par ces jeunes militants sont inacceptables, mais sans rassurer complètement, comme on peut le lire dans la presse. Et puis The Guardian, lui, publie un long article sur les dangers des aliments ultra transformés. En s'appuyant sur les travaux d'un scientifique, il explique que ces aliments nécessitent des avertissements similaires à ceux du tabac, qu'ils devraient être également lourdement taxés en raison de leur impact sur la santé et sur la mortalité. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, écrit le journal, plus de la moitié de l'alimentation moyenne est désormais composée de ces aliments ultra transformés, alors que les risques sont connus, risques plus élevés de maladies cardiaques, de cancer, de diabète, de problèmes de santé mentale ou encore de décès prématurés. On va rester au Royaume-Uni pour parler de ce débat télévisé, le dernier qui s'est tenu hier soir avant les élections législatives anticipées du 4 juillet. Les électeurs britanniques votent donc dans une semaine et pour essayer d'inverser la tendance, le Premier ministre Rishi Sunak a échangé hier avec le chef du parti travailliste Keir Starmer, l'opposition qui semble très bien partie pour l'emporter et de loin lors de ces élections. Sidonie Gaucher, correspondante à Londres, a suivi le débat pour nous.
Dès les premiers échanges, le ton était donné. Keir Starmer a attaqué directement Rishi Sunak en déclarant qu'au cours des 14 dernières années, la politique était devenue trop axée sur l'autosatisfaction et il a promis de la réinitialiser pour qu'elle redevienne au service du public. Mais l'échange le plus vif a porté sur la lutte contre l'immigration illégale. Keir Starmer a tenté d'interroger le Premier ministre sur son projet d'expulsion des immigrés au Rwanda. On l'écoute.
Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Que répondez-vous à ça? Que répondez-vous à ça?
Savez-vous d'où viennent ces gens? Ils viennent d'Iran, de Syrie, d'Afghanistan. Et vous, qu'allez-vous faire? Vous asseoir à la table des ayatollahs d'Iran? Vous allez essayer de négocier avec les talibans? Cela n'a pas de sens. Vous prenez les gens pour des idiots.
Quoi qu'il en soit, pour Keir Starmer, l'enjeu hier soir était de ne pas faire de faute si près du vote. Le 4 juillet prochain, le Labour est promis à une écrasante victoire selon les sondages, tandis que les conservateurs font les frais d'une campagne laborieuse marquée par une polémique de Paris sur les élections. Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
Autre débat très attendu ce soir entre les deux principaux candidats à la présidence aux États-Unis. Et si on vous en parle maintenant, c'est parce que les Européens s'inquiètent d'une possible réélection de Donald Trump en novembre. On s'interroge aussi sur l'avenir de l'OTAN, mais il n'y a pas de crainte à avoir pour la survie de l'organisation, selon la chercheuse Laurence Nardon de l'Institut français des relations internationales.
Un certain nombre d'élus au Congrès américain ont fait passer en douce, en décembre dernier, une mesure dans une des lois budgétaires du Congrès américain, empêchant le président américain ou la Maison-Blanche de sortir unilatéralement de l'OTAN sans avoir un accord du Congrès. Et donc ça semble empêcher une décision d'un Trump qui dirait « on sort de l'OTAN et c'est comme ça ». Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ceci dit, il suffit qu'un président américain dise « je ne respecterai pas l'article 5 » pour que, de fait, l'OTAN ne serve plus à grand-chose.
Qu'est-ce qu'il faut redouter en novembre prochain ?
Eh bien, ce qu'il faut redouter, c'est ce que Trump annonce. Et quand je dis Trump, en fait, c'est aussi les différents think tanks conservateurs qui sont en train de se battre en ce moment. Il y a une bataille très intéressante à Washington qui se joue entre tous les spécialistes de politique étrangère et de défense conservateurs, républicains, qui sont en train de jouer des coudes pour se positionner dans une possible prochaine administration Trump 2. Et donc, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent à peu près tous la même chose, à savoir ouvrir des négociations entre la Russie et l'Ukraine sous l'égide du président Trump, qui, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, résoudrait la question en 24 heures.
Dans ce contexte, l'Union européenne accélère le développement d'une autonomie stratégique. Mais est-ce que face à un potentiel désengagement des États-Unis, l'Europe est prête et est-ce qu'elle peut faire face ?
Alors, ce qu'il faut quand même reconnaître, il faut vraiment le dire, c'est que depuis février 2022, l'Union européenne a vraiment fait énormément de choses. Elle a utilisé les facilités pour la paix pour la première fois. Elle a fait de la formation pour les militaires ukrainiens. Elle a déclenché des trains de sanctions vraiment innombrables. Et on n'aurait jamais pensé que l'Union européenne ferait autant de choses d'un coup. Donc c'était vraiment impeccable. Après, j'ai l'impression que le problème est plus psychologique qu'autre chose, si je puis me permettre d'employer ce terme en matière de relations internationales. Je pense que les Européens seraient plus effrayés qu'incompétents pour aider l'Ukraine si les États-Unis se retiraient. C'est-à-dire qu'on aurait un effet de vide et la peur de ne pas y arriver, ce qui ne serait pas forcément justifié.
Un mot d'économie, l'élection américaine fait aussi peser de lourdes incertitudes sur ce plan-là. Le programme de Donald Trump est ultra-protectionniste. Est-ce que, à votre avis, l'Union européenne fait ce qu'il faut pour s'y préparer?
Oui, l'Union européenne fait ce qu'il faut. Elle a déjà réagi à la politique protectionniste de Joe Biden, parce qu'en fait, de Trump 2016, Biden aujourd'hui et le prochain président, quel qu'il soit, ils seront sur une ligne protectionniste. L'époque du libre-échange triomphant des États-Unis de l'après-guerre est vraiment terminée. Là, on est vraiment dans un moment, j'ai envie de dire, post-néolibéral dans l'économie américaine. Vous parlez de protectionnisme, il y a aussi des investissements fédéraux absolument massifs qui ont été faits par l'administration Biden. Donc, est-ce que l'Union européenne se prépare? Oui, parce que nous avons lancé, nous aussi, un Green Deal. Alors, tout le monde essaye de le freiner parce que ça coûte cher et c'est pas forcément très populaire, mais enfin, il faut espérer que ça va pouvoir avancer. Et encore plus important, l'Union européenne commence elle aussi à renoncer à ce principe sacro-saint qui était le sien du libre-échange. Donc elle commence à se protéger, par exemple, d'investissements chinois abusifs, et elle commence à essayer de protéger ses industries pour faire revenir quelques usines sur notre sol.
Est-ce que dans l'ensemble, vous diriez qu'on peut prendre la mesure des conséquences de la prochaine élection ?
Il faut quand même dire, une victoire de Biden n'est quand même pas du tout impossible, hein, encore. Il ne faut pas que les démocrates partent battus. Ils ont encore pas mal d'atouts dans leur jeu. Ça va se jouer à pas grand-chose jusqu'à la fin, sans compter évidemment la possibilité, mais alors là on est dans la politique fiction, d'un accident de santé d'un côté ou de l'autre. Hein. Mais donc il ne faut pas non plus... il faut se préparer à une possible victoire de Trump, mais il ne faut pas penser non plus que les jeux sont faits.
Laurence Nardon de l'Institut français des relations internationales, elle répondait à Juliette Garbrand et vous pourrez retrouver cet entretien ce soir dans l'émission Accent d'Europe à partir de 19h10, temps universel.
RFI, l'Europe à midi.
On se penche maintenant sur les conséquences considérables de la Fashion Week qui se déroule en ce moment à Paris. Les défilés Dior, Chanel ou Balenciaga sont grandioses, le spectacle impressionnant. Mais au détriment de notre planète, car les 4 Fashion Week du monde émettent chaque année l'équivalent de 241 000 tonnes de CO2. C'est deux fois plus qu'un territoire comme Monaco. Alors ce sont essentiellement les voyages en avion qui plombent le bilan carbone, mais ces défilés, Lucille Gimbert, ils produisent aussi énormément de déchets liés au décor.
Une fausse fusée suspendue en l'air, une grotte factice tapissée d'éclats de miroirs ou encore une prairie de fleurs reconstituée. Rien n'est trop extravagant pour incarner les marques de haute couture et convaincre les acheteurs. Mais ces défilés grandioses, au budget allant jusqu'à plusieurs millions d'euros pour certains, ce sont aussi des tonnes de bois, de métal, de moquettes pour construire le décor, les bancs pour le public ou le catwalk où se présenteront les mannequins. Louise Malémol travaille à la Réserve des Arts, une association qui récupère des décors de mode pour qu'ils soient réemployés.
Un grand défilé de mode, ça peut être plusieurs semi-remorques de matériaux à transporter. Ça peut représenter plus de 100 tonnes de matériaux.
100 tonnes de matériaux pour des défilés qui durent en moyenne une vingtaine de minutes. Avant tout partait à la poubelle. Depuis 2018, de plus en plus de producteurs et de maisons de haute couture s'organisent pour donner une deuxième vie à leur décor.
Il y a à peu près 300 défilés par an à Paris. Aujourd'hui, on en collecte une quarantaine. Après, c'est à pondérer avec l'échelle des événements. Et nous, on collecte les plus gros défilés.
Un début de prise de conscience, donc, favorisé notamment par la loi française contre le gaspillage et par des obligations européennes de transparence concernant la gestion des déchets d'entreprise.
Lucille Gimbert, il est 13h53 ici à Paris.
RFI Midi.
Un monde de tech.
Un monde de tech consacré à une chanson, ou plutôt un hymne qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Écouté des millions de fois, repris dans des milliers de vidéos par les utilisateurs. Bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Alors il s'agit en fait d'un hymne ouvertement raciste. Son titre, Je partirai pas.
Oui, et la chanson est présentée comme le futur tube de l'été par des milliers de comptes sur X, YouTube et TikTok. Alors pour vous faire une idée, voilà ce que ça donne.
Je partirai pas, si tu partiras, et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné, maintenant tu peux te casser, on débarras et ne reviens pas, on va passer par des larmes. tu vas retourner chez toi, tu mettras ta
tienne. Alors voilà, c'est entraînant, ça donne presque envie de danser, mais cette musique est en réalité assez nauséabonde. Vous avez peut-être entendu dans la chanson un homme crier « Je partira pas », c'est ce qui a inspiré la chanson. Il s'agit en fait d'un extrait d'une ancienne vidéo virale dans laquelle on voit un individu menotté, forcé à monter dans un avion par la police pour quitter la France, et l'homme s'écrie « Je partira pas » avec un accent étranger. La faute de français dans le titre de la chanson est donc volontaire. Autre rime parmi les paroles que vous venez d'entendre. Quand va passer Bardella, tu vas retourner chez toi, tu partiras avec ta Fatma, fini le RSA. Des paroles donc ouvertement racistes qui symbolisent pour ses auteurs ce que pourrait être la France dans quelques semaines si certains étrangers étaient expulsés comme l'homme sur la vidéo.
Et d'où vient cette chanson, Pierre?
Alors la voix que vous entendez a été générée par une intelligence artificielle. Cela s'entend d'ailleurs à plusieurs reprises, car certaines syllabes ne sont pas bien articulées et le timbre est un peu métallique. La musique électro a elle aussi été générée par une IA. Le compte TikTok à l'origine de la chanson est coutumier des contenus aux sous-entendus xénophobes et affiche son soutien au prétendant à Matignon, Jordan Bardella, bien que le président du Rassemblement National n'ait a priori rien à voir avec la chanson. Elle a en tout cas été reprise des centaines de milliers de fois par des comptes de sympathisants proches de l'extrême droite.
Et ce buzz donc intervient à quelques jours du premier tour des législatives.
Et oui, et magie de l'algorithme des réseaux sociaux, même si vous ne suivez pas de compte affilié à l'extrême droite, eh bien les plateformes font remonter les vidéos qui utilisent cette chanson. Elle totalise donc déjà des dizaines de millions de vues sur toutes les plateformes. Pour l'instant, les politiques ne s'en sont pas encore emparées. Pas de réaction non plus du Rassemblement National, mais déjà l'association SOS Racisme a annoncé qu'elle portait plainte pour incitation à la haine et propos immondes et dénonce des propos immondes et racistes. Elle demande par ailleurs aux plateformes sur lesquelles la chanson est publiée de retirer ses contenus. Et de son côté, TikTok assure avoir alerté son équipe de modération, Anne.
Merci Pierre-Olivier, c'était notre Monde de Tech et on vous retrouve demain, même heure, même endroit.
RFI, les voix du monde.
Dans 4 minutes, un nouveau journal sur RFI, toute l'actualité internationale, puis notre invité, nous recevons aujourd'hui la sociologue et militante des droits de l'homme turque Pinar Selek, qui est en exil en France depuis 25 ans et dont un nouveau procès commencera demain. Et puis à midi et demi, temps universel, comme chaque jour, Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner.
Vous nous parlerez tout à l'heure.
De la Mauritanie, c'est le dernier jour de campagne. Le pays vote samedi pour la présidentielle. 7 candidats en lice, c'est l'heure des derniers meetings. Et puis au Kenya, de petits groupes de manifestants dispersés par la police en cette mi-journée à Nairobi. Des appels à rassemblement avaient été maintenus malgré l'annonce hier du président Ruto qu'il retirait le projet de budget très controversé.
À tout à l'heure Nicolas Sûr, midi et demi, temps universel.
I'm not a holy man, holy man, holy man, I'm here to hold you. I'm not a holy man.
De la musique jusqu'au prochain journal, jusqu'à midi, temps universel. Wanda Banton et son titre, Holy Man.
I don't be pastor, we know they for church. I get my own palaver, we are more. I be seen a man, seen a man. Oh, be seen a man, seen a man. I get my own palava, we are more. I be seen a man, seen a man. Oh, be seen a man, seen a man.
Oh, yeah, for me, what I what I oh, yeah, for me, what I Mata cast, oh, yeah, tell me, Mata and I see law, make sure you Mata stress from the lungu, zungu. Busy body, blessing for the lungu, zungu. Ah, she won't go, the sanko, lungu. Everything you want, life is too good, shuku.
les Nigérians Wanda Banton et Bella Shmurda avec le DJ haïtien Michael Brun pour ce tube Holy Man qui est à écouter quand vous le voulez sur la playlist RFI.
RFI, la sélection du mois.
La flemme.
Sans movie, pas de cash et le méchant apparemment. Yes, une allumeuse. J'ai les yeux cagés un peu ce qu'il y a dans le pantalon. Pas carrément. Arrête.
Rosé.
Faut se parler comme ça. De voulu voir ailleurs, on fait des plans que pour toi. Mais j'ai pas encore l'habitude.
RFI Musique. Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Réédition événement, le rire de la Méduse, le manifeste féministe d'Hélène Cixous paru en 1975 et de nouveau dans les librairies. L'occasion d'une rencontre pour explorer le lire, écrire, vivre d'une des plus grandes écrivaines françaises pour qui la langue est perpétuelle invention.
Écoutez, de